L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, nous recevons un des intervenants des Carrefours de la Pensée qui auront lieu ces 22 et 23 mars prochains. Son intervention porte sur l'agroécologie, on échangera avec lui sur ce sujet. Bonjour Konrad Schreiber.
Bonjour.
Puis nous parlerons de la semaine dédiée aux droits des étrangers qui se déroule du 18 au 21 mars à travers différents événements. Et pour en parler, je suis avec Aimé Hugo. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, nous finirons cette émission avec la chronique étudiante de Maxime. Mais pour le moment, c'est parti pour notre première invitée du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Konrad Schreiber, vous êtes ancien éleveur devenu ingénieur agronome spécialisé dans la conservation des sols et la gestion du carbone dans les sols. Vous participez au Carrefour de la Pensée ce samedi 23 mars. Vous ouvrez la séquence intitulée « Demain, quel quotidien ?» avec une intervention sur l'agroécologie que vous définissez dans votre intitulé comme un projet de société et une arme contre le réchauffement climatique. Alors tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi avoir quitté votre métier d'éleveur pour celui d'ingénieur agronome.
Oh, c'est le hasard parce que j'étais sur un bail long terme non renouvelable. Donc quand il a été fini, j'avais deux solutions. Racheter la ferme ou finalement faire déjà le travail dans lequel je m'étais engagé. Et comme j'étais responsable professionnel dans les CUMA, ce sont des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Comme vous animez ça depuis quasiment 20 ans et que vous êtes déjà engagé dans un changement de pratique, c'est naturellement en fait que globalement j'ai continué cette voie-là du développement agricole.
D'accord. Et alors, est-ce que vous avez pour autant quitté le terrain, entre guillemets, si je puis dire? Comment est-ce que ce métier d'ingénieur vous permet d'agir plus concrètement?
En fait, le métier d'ingénieur, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un diplôme qui vous donne accès à une autre façon de peut-être d'analyser ou de travailler avec les agriculteurs avec lesquels vous travaillez déjà, de toute façon. Donc, en fait, cette acquisition de connaissances ou de compétences, elle vous permet peut-être de mieux manager les projets. Donc, meilleure synthèse, mais peut-être analyse plus pertinente parce que vous êtes de toute façon sur le terrain et donc vous prolongez quelque chose qui est déjà engagé.
D'accord. Et alors, vous êtes également cofondateur de l'organisme Vert de Terre Production. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, ça fait partie de mon métier, c'est-à-dire depuis 2007 à peu près, je porte et je construis tout un tas de projets avec plein de partenaires. D'accord. Et toujours autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, mais à l'époque ça s'appelait de l'agriculture de conservation des sols. Et finalement, on cherchait un moyen de diffuser de la connaissance gratuitement vers les agriculteurs en premier lieu et vers n'importe qui dans la société dans une deuxième phase. Et historiquement, en 2008 et 2010, on a posé les bases de l'agroécologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que avec les maraîchers plutôt type AMAP et puis en vente directe, etc., dans les circuits courts, on a travaillé des maquettes de production complètement autonomes avec zéro intrant, zéro compost, et on a tout travaillé à partir des feuilles mortes, du bois et de la paille.
D'accord.
Et ça a été très productif. C'est aujourd'hui, on a la première génération de maraîchers sur sol vivant, c'est comme ça qu'on les a appelés, qui ne savent plus travailler la terre globalement.
D'accord.
Et on a des rendements meilleurs ou aussi bons qu'en agriculture chimique conventionnelle.
D'accord. Donc vous, ce que vous proposez, c'est des formations pour ces éleveurs et ces agriculteurs, en fait
Oui, en fait, Vert de Terre Production, c'est le prolongement de tout ce travail-là. Moi, je travaille principalement avec des éleveurs au sein de La Vachereuse, qui est une société de conseil privé. Mais en gros, le Vert de Terre Production, ça va être un petit peu l'aboutissement de tout un tas de projets où les agriculteurs peuvent produire plus, mieux, autrement.
D'accord.
Et plus autonome globalement. Et donc, on a diffusé ça sur une chaîne Vert de Terre Production. Il y a un site internet, il y a de la documentation. Et en fait, c'est un libre accès au savoir.
Ok. Alors, c'est par hasard, j'imagine, si le choix du Vert de Terre a été fait pour symboliser tout ça. En fait, c'est quoi le rôle du Vert de Terre dans la conservation des sols notamment.
En fait, le ver de terre, c'est l'allié des plantes avec les champignons depuis 500 millions d'années. Ça a coévolué ensemble. Et en fait, plus vous avez des vers de terre qui digèrent des feuilles mortes et de la paille et des racines mortes et du bois dans un sol, plus en fait les plantes sont en aptitude de produire et de grandir énormément.
Okay.
Et donc en fait, il y a une corrélation positive entre la quantité de vers de terre présents dans un sol, la quantité de nourriture qu'ils vont absorber à partir des déchets végétaux et la productivité des plantes.
Okay.
Et donc c'est ça qu'on construit en permanence, aussi bien avec des maraîchers qu'avec des éleveurs, des céréaliers ou des arboriculteurs. En fait, on s'adresse à tout type d'agriculture.
Parce que j'imagine que pour ces vers de terre soient suffisamment présents, il y a aussi des conditions au niveau du traitement du sol.
Ah ben tout à fait, c'est... Un ver de terre, il faut imaginer un être vivant à part entière, comme vous et moi. C'est toujours un petit peu compliqué d'imaginer qu'un insecte, ça nous ressemble. Mais en fait, dans les fonctions vitales, c'est exactement la même chose. Et en fait, un individu vivant qui fait partie du domaine de la biologie, il doit, pour se développer, avoir deux grandes fonctions qui sont établies et assouvies. C'est-à-dire, il doit manger tous les jours et il doit avoir une maison en bon état. Et en fait, de ce postulat-là, on s'est rendu compte que travailler la terre, c'était le plus gros problème de l'agriculture. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi je suis assez catégorique, on en a fait plus de 20 ans, toutes les pollutions agricoles proviennent du travail du sol.
Mmh.
Et en fait, mon métier de développeur, mais celle de toute une bande qu'on a formée, avec laquelle on travaille en collaboration, en fait, on travaille à faire prendre conscience de cette thématique-là aux agriculteurs et de les amener à préserver des habitats et à nourrir leurs habitants pour avoir finalement un gros développement de la biodiversité.
Alors, on va en venir plus précisément maintenant sur votre intervention des Carrefours de la Pensée du 22 et 23 mars prochain. Alors, vous intervenez le 23 mars. Votre intervention s'intitule « L'agroécologie, un projet de société, une arme contre le réchauffement climatique ». Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'agroécologie et même peut-être dans un premier temps, ce que c'est que l'agronomie? Je pense qu'il faudrait déjà commencer par là.
Oui, alors l'agronomie, c'est un métier très complexe. On associerait ça plutôt à une science molle, quelque part, parce qu'en fait, vous êtes dans la compréhension des relations entre les êtres vivants.
D'accord.
Et ça passe des êtres vivants du sol avec les plantes, avec les animaux et fatalement les hommes qui sont aussi dans cet écosystème. Donc c'est une science un petit peu complexe où vous faites appel à des savoirs très transversaux qui finalement vous permettent de comprendre ces relations plus ou moins intimes entre les individus. Et en tant qu'agriculteur, le premier travail, c'est cette agronomie-là.
D'accord. Et du coup, l'agroécologie précisément, qu'est-ce que c'est ?
L'agroécologie, en fait, si vous faites le tour du monde, vous avez plein de définitions partout et on les a mises un petit peu à la poubelle parce qu'on peut pas on ne peut pas travailler avec ces définitions-là. Donc, celle de l'ONU, celle de la FAO, celle de la Commission européenne, celle du ministère de l'Environnement, celle du ministère de l'Agriculture, on a dégagé un petit peu tout ça parce qu'en fait, c'est une espèce d'imbroglio où on veut faire du durable, de l'économie, du social, de la protection de l'environnement et en fait, tout le monde s'y perd et finalement, c'est absolument pas clair. Donc, on s'est permis de redéfinir l'agroécologie comme sur une notion simple. En fait, on a repris le terme latin dans agroécologie. Il y a trois syllabes, si vous voulez. Agro, c'est aguerre ou agros, c'est le champ. Donc, le champ du paysan, ça nous allait parfaitement bien. Donc, du coup, on va projeter les paysans, on va les mettre dans leur champ, réellement.
Ouais.
Donc, ça, première syllabe, elle fonctionne bien. La deuxième, c'est éco. Alors, c'est pas de l'écologie, c'est pas de l'économie. Hein. C'est oikos, ça veut dire maison en grec. Et donc, mon champ devient une maison. Et donc, ça allait super bien avec notre biologie du sol, qui a besoin d'une maison en bon état, en fait.
D'accord, oui.
Donc, finalement, il reste la troisième syllabe, le logis. Donc, logos, connaissance et science. Donc, ça appelle à nos métiers d'agriculteurs, d'agronomes, de praticiens. Ce n'est pas forcément de la science au sens scientifique du terme, c'est de la connaissance appliquée, du pragmatisme souvent, hein, parce qu'il y a besoin de ça. Et finalement, l'agroécologie, c'est une espèce de logique où on va faire de la bio-logique, c'est-à-dire de la logique de fonctionnement de la biologie. Donc, on va utiliser nos compétences et nos connaissances scientifiques ou autres pour faire fonctionner ce champ maison pour que les plantes produisent toutes seules. Et donc, pour ça, il faut donner une grande ration de nourriture à ce sol vivant, finalement. Okay.
Donc, tout est dans le nom, en fait, quoi.
Tout à fait. Il suffisait de faire un travail...
étymologiquement le...
Okay. Très simple, oui.
Et alors, est-ce que l'agroécologie s'oppose à une certaine forme d'agriculture ?
Alors, elle ne s'oppose pas. Elle est mise en place pour les intégrer toutes sans exception.
D'accord. Hein.
En fait, globalement, elle va s'opposer à des postulats le postulat de la chimie s'avère faux quand on travaille avec la biologie. Mais le postulat de l'agriculture biologique, qui consiste à beaucoup travailler les sols, s'avère faux par rapport à l'agroécologie. C'est une agriculture qu'on construit vers la sortie des pesticides. Moi, je suis très, très, très avancé dans ces projets-là. On est en train de faire les premières maquettes sans pesticides à productivité chimique, si vous voulez.
D'accord.
On apprend avec les agriculteurs. Les premiers résultats sont sur la table. Pour nous, le dossier éco-phyto est déjà dépassé. On saura faire la sortie des phytos. Et en fait, on va s'adresser à deux types d'agriculture. La conventionnelle qui a le travail du sol et la chimie. Et l'agriculture biologique qui a le travail du sol intensif qui détruit tout également. Et donc, on va les intégrer dans une approche biologique.
Ok. Hein. Mais alors, du coup, l'agroécologie ne s'oppose pas forcément à l'agriculture intensive industrielle ?
Non, parce qu'on s'est même permis de faire plus de production en biologie qu'en agriculture, industrielle.
D'accord.
Et on a fait ça avec les maraîchers nantais. Donc, les maraîchers nantais, c'est des tomates à 300 tonnes hectares et des trucs en hydroponie, etc. Et quand vous enlevez l'hydroponie et que vous mettez tout, on a fait des jardinières de lombricompost permanent, on produit plus, le double quasi,
d'accord,
que dans le système hydroponique. Et on passe tout le monde en biologie. Alors, c'est le gros tremblement de terre dans les écosystèmes organisés de l'agriculture, parce que ça veut pas vraiment naître et sortir. Tout le monde empêche l'émergence des solutions pratiques, parce que produire beaucoup, c'est un gros mot pour les décroissants. Et en fait, produire en biologie, c'est un gros mot pour les tenants de la technologie chimique et industrielle.
Okay.
Et donc, ça fait peur un petit peu à tout le monde, parce que c'est une révision complète de tous les business plans et de tous les savoirs établis.
Oui, parce qu'effectivement, moi je pensais, comme beaucoup d'autres, je pense qu'il y avait d'un côté l'agroécologie qui était très respectueuse de l'environnement, etc., et du coup qui avait un rendement moindre, et à côté l'agriculture industrielle qui a cet avantage de produire beaucoup plus et donc de nourrir beaucoup plus une population de plus en plus grande. Ça ne marche pas, ça.
C'est une très très bonne nouvelle. L'agroécologie, elle produira autant, voire plus qu'avant.
D'accord.
Et en fait, en biologie, globalement.
Okay.
Alors, il y aura peut-être des technologies, des intrants là-dedans, mais c'est beaucoup, beaucoup plus cool que ce qu'on a aujourd'hui, globalement.
Ok. Et alors, dans le résumé de votre intervention pour les carrefours, on peut lire « Nourrir l'humanité, c'est avant tout nourrir les sols ». Alors, on a commencé déjà à en parler un peu, mais comment ça se passe, en fait ? Comment est-ce qu'on nourrit les sols ?
Ben en fait, on a pris comme modèle la nature, globalement. Comment pousse un arbre ? Ben, un arbre, il pousse tout seul. J'interviens jamais. Et donc, vous dites, avec rien, il sait tout faire. Donc, la question, c'est comment ça fonctionne ? Et donc, ça, c'est la partie de connaissance que vous allez développer. Et en fait, l'arbre, tous les automnes, il remet des feuilles mortes par terre, ses racines se dégradent en partie, il les renouvelle, et il y a des branches qui reviennent avec la tempête. Et en fait, le sol à ses pieds va digérer des feuilles mortes et du bois. Et en fait, dans cette phase de consommation de cette matière très, très, très carbonée, en fait, la biologie du sol va produire un super excrément qui s'appelle l'humus, et qui stocke les minéraux, qui est structuré, c'est une espèce de colle, il va structurer son habitat, il va recycler les éléments, et à un moment donné, la racine, elle a à disposition plein, plein, plein de nutriments qui viennent d'une unité de recyclage qui est la biologie du sol.
Okay.
Et l'arbre peut pousser tout seul.
Alors oui, vous avez parlé de carbone. C'est le carbone, c'est vraiment l'élément important dans ce fonctionnement-là, c'est ça ?
Oui. Ça nous est un petit peu tombé dessus. C'est-à-dire, on a appelé ça la ration du sol. Le sol, il doit manger comme moi tous les jours. Hein. Je fais un, deux ou trois repas. Ben, ça dépend un petit peu les individus. Mais globalement, je mange. J'ai une ration pour être en bonne santé. Et bien, en fait, la ration pour le sol, pour que les plantes poussent toutes seules, c'est une ration riche en carbone. Ce sont des feuilles mortes, des branches, du bois et des racines.
Okay.
Et c'est jamais de l'azote, si vous voulez. En fait, c'est par le processus de digestion du carbone que l'azote de l'air va être récupéré par la biologie et transmis dans la chaîne alimentaire du sol pour pouvoir profiter aux plantes.
D'accord.
Et donc, du coup, c'est le carbone, en fait, c'est l'axe fondateur, et ça tombe bien. Ces sols-là qui sont peu travaillés ou pas du tout, parce qu'on fait finalement que les lits de semences, eh bien, ils sont des ils hébergent une très forte biodiversité qui se nourrit de carbone, qui finit en partie en humus, et ces sols, ils stockent du carbone. C'est-à-dire, c'est une technique de dépollution de l'atmosphère qui est quasi... c'est la plus efficace du monde, parce que c'est les plantes qui gèrent le climat, malgré tout ce qu'on veut dire, puisqu'elles récupèrent le CO2 et elles savent le gérer dans une chaîne alimentaire, globalement.
La chaîne alimentaire du sol, ça fonctionne vraiment comme si c'était un être vivant avec un système digestif.
Tout à fait. Le sol, on l'a appelé l'entité de recyclage. C'est un être vivant à part entière dans toute sa complexité de biodiversité.
Ok. Alors, pour aborder un sujet inévitable aujourd'hui, il me faut rappeler les récentes manifestations des agriculteurs qui revendiquent davantage de considération pour un travail de plus en plus pénible, à quoi le gouvernement a répondu par plusieurs mesures d'assouplissement, notamment la réautorisation du glyphosate. Que pensez-vous de cette mesure ?
Moi, je suis plutôt en faveur du glyphosate parce que c'est un outil qui nous permet d'apprendre à supprimer le travail du sol. Mais tu ne peux pas être scotché au glyphosate pour l'éternité. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en partie, tu dis, bon, ok, je peux faire du lobbying pour sauver le glyphosate, il n'y a aucun problème là-dessus, mais quelle est la suite ? C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser le public et le débat ambiant sur le glyphosate. Tu dois donc te permettre de construire des solutions sans. Et ça, c'est plus facile quand tu as une gomme.
Une gomme ?
Ben oui, le glyphosate, c'est une espèce de gomme. J'ai raté, je corrige, continue.
Okay.
Parce qu'en fait, ça ne tue que des plantes, ça ne tue jamais la biodiversité. Donc, il n'y a pas d'impact sur l'écologie globale, à condition que je sache cultiver des plantes. Donc, ça nous a appris à cultiver beaucoup de plantes. Et aujourd'hui, on est assez peinard. Moi, je suis très peinard là-dessus. Nous avons des maquettes très productives sans produits phytosanitaires. Alors, on fait des coûts. On n'est pas encore dans un système huilé, reproductible pour tous les paysans. Mais allez, encore 4-5 ans, et on en aura. Parce qu'en fait, c'est un travail d'apprentissage incrémental. Donc en fait, la condition sine qua non de travailler avec le glyphosate, c'est de savoir s'en passer demain. Et là, vous n'avez plus de problème de glyphosate globalement, puisque vous avez la solution qui suit. Et en fait, on se rend compte que dans le débat éco-phyto, phyto, public, etc., personne n'engage des moyens intellectuels, scientifiques et financiers pour préparer la suite. Et il y a un grand biais dans la science. Tout le monde pense que la solution viendra de la science, c'est-à-dire des institutionnels, de la recherche agronomique et autres. C'est absolument faux. L'innovation viendra des praticiens sur lesquels on peut challenger. Ils peuvent prendre quelques risques, pas tout le monde, mais les pionniers, ils vont les prendre et on peut les challenger pour construire. C'est de la co-construction. Et en fait, vous devez apporter du savoir et du savoir-faire à ces agriculteurs-là. Et moi, je fais ça régulièrement. Demain, je vais en voir un.
Donc, vous envisagez une transition importante vers l'agroécologie? Et si oui, à quelle échelle et à quel terme?
En fait, quand on fait l'analyse de la crise agricole, on se rend compte que le terme agroécologie, il n'arrive pas sur la table. Le ministre, il ne peut pas dire qu'il fait de l'agroécologie, le président non plus, les syndicalistes non plus, etc. Et même dans les médias, ça tout saute et c'est dans un coin et on essaye de garder ça dans un coin. En fait, prononcer le mot agroécologie, c'est de facto poser un problème politique.
D'accord.
Parce que, en fait, nous sommes les innovateurs. Et quand vous avez étudié un petit peu Schumpeter, les cycles de l'innovation, l'économie de l'innovation, L'innovation, elle s'impose parce qu'elle vient solutionner tout un tas de problèmes que les vieilles technologies apportent. Et donc, aujourd'hui, on a tout pollué à cause du travail du sol, principalement, les pesticides et la chimie en plus. Hein. Et donc, pour réparer tout ça, ben, c'est l'innovation de l'agroécologie qui va faire le job. Sauf que, tout d'un coup, ce sont les compétences qui ont changé de camp. Hein. Et donc, en fait, ceux qui tiennent la vieille machine, ils ne sont absolument pas prêts à perdre leur belle place au soleil dans des systèmes complètement désuets. Et donc, c'est cette bagarre politique qui a lieu dans la crise agricole.
Et alors, est-ce que vous avez pu constater, du coup, des avancées ? Est-ce que vous êtes optimiste ?
Très optimiste. Les paysans travaillent avec nous de plus en plus. Nous avons diffusé sur Vers de Terre Production tellement d'informations que dans nos pointages Internet, on a touché 100 000 paysans.
Ah oui,
donc, c'est quasi un quart de toute la population agricole. Et les jeunes en demandent beaucoup. Donc, en fait, on voit que les dossiers se développent. Mais tant que, en fait, aujourd'hui, on développe pied à pied, agriculteur après agriculteur.
Okay.
Donc, c'est un développement lent.
Ouais.
Parce que, justement, ce qui est dit dans les économies de l'innovation, Schumpeter notamment, il dit que l'État doit engager les crédits, les supprimer au vieux système et les mettre sur le nouveau. Et tant que l'État n'a pas fait le switch, en fait, il permet au vieux système de perdurer. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est dans la responsabilité de l'État, hein, qui ne comprend pas ce que c'est que de l'innovation. Et en fait, l'État, on comprend bien qu'il ne veuille pas bouger, puisque la cogestion, elle est actrice du vieux système qui périclite. Hein ? Donc en fait, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer.
Et alors, pour finir, quel est votre objectif en venant parler de ce sujet au carrefour de la pensée ?
L'objectif, c'est d'avoir un débat avec d'autres gens dans la société, de diffuser du savoir, ce qu'on a entrepris sur Vers de Terre Production. Ils peuvent fouiller dans une boîte énorme. C'est quelque chose qui a zéro pub, donc c'est comme vous voulez, etc. Donc, moi, je paye pour qu'il n'y ait pas de pub là-dessus. C'est un véritable travail. On ne gagne pas d'argent puisqu'il n'y a pas de pub. Et donc, en fait, c'est volontairement fait comme ça pour que les gens puissent piocher comme ils veulent, sans être dérangés par un Coca-Cola ou je ne sais pas qui. En fait, on ne veut pas que le cerveau soit disponible, si vous voulez. On veut que le cerveau se gave, prenne vraiment cette connaissance et la construise et l'emmagasine pour lui.
Eh bien, merci beaucoup, Konrad Schreiber, pour être venu nous parler dans l'amphi d'agroécologie et de nous avoir présenté le sujet de votre intervention lors des Carrefours de la Pensée. Ce sera ce 23 mars prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Birds in Row, Maroura et Unschooling, soirée Indérama au Saunière le 16 mars, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Kabadzi, le bruit des portes.
On avait jeté les serrures, leurs mélodies. On avait semé les cris de joie sur la plage. Levé nos verres au vent qui court sans mur, aux étoiles sans barrage. C'était dehors, c'était fini, mort aux pilules, à leur folie. Sous la terre et sur la pierre, j'ai semé les fleurs que tu préfères. Sous la terre et sur la pierre, pousse les pleurs de nos hivers. Sous la terre et sur la pierre, j'ai semé les fleurs que tu préfères. Sous la terre et sur la pierre, pousse les pleurs de nos hivers. On avait semé comme des mômes sous des rêves de nuit, de beaux sourires aux bras de filles à demi nues. Levé nos verres aux nuits sans cauchemar, aux couches tard plein les rues. C'était dehors, c'était fini, mort aux cellules, à leur oubli. Sous la terre et sur la pierre, j'ai semé les fleurs que tu préfères. Sous la terre et sur la pierre, pousse les pleurs de nos hivers. Sous la terre et sur la pierre, j'ai semé les fleurs que tu préfères. Sous la terre et sur la pierre, pousse les pleurs de nos hivers. T'es parti, parti voir un autre lit. Regarde tout ce qu'on a semé, c'est fini. Sous la peur et sur mon cœur, poussent les pleurs d'un autre ici. Tout toutes les heures, dans tous mes vers, pousse les pleurs de ton mystère. Sous la terre et sur la pierre, j'ai semé les fleurs que tu préfères. Sous la terre et sur la pierre, pousse les pleurs de nos hivers. Sous la terre et sur la pierre, j'ai semé les fleurs que tu préfères. Sous la terre et sur la pierre, pousse les pleurs de nos hivers. Dehors, derrière le mur, on avait semé des peaux nues. On avait semé des tissus sans armure et sans rayures. Dehors, on devait voir des vrais gens, des gens qui s'aiment, des amants. On avait semé des baisers, avec nos corps qu'on allait retrouver. Dehors, sous la terre et sur la pierre, il n'y aurait plus d'hiver. On venait d'enterrer ces années mortes, jusqu'au bruit des portes. Sous la terre et sur la pierre, j'ai semé les fleurs que tu préfères. Sous la terre et sur la pierre, pousse les pleurs de nos hivers. Sous la terre et sur la pierre, j'ai semé les fleurs que tu préfères. Sous la terre et sur la pierre, pousse les pleurs de nos hivers. Et sur la pierre, j'ai semé les fleurs que tu préfères. Sous la terre et sur la pierre, pousseront tes vers comme des prières. Sous la terre et sur la pierre, les fleurs fanées de nos hivers. Sous la terre et sur la pierre, sous la terre et sur la pierre.
Retour dans l'amphi et je suis à présent avec Aimé Hugo, bonjour.
Bonjour.
Mais également Lucie de Verdelan, bonjour également.
Bonjour.
Alors Aimé Hugo, tu es doctorante en droit international à l'Université du Mans et tu participes à l'organisation d'une semaine dédiée aux droits des étrangers. Lucie de Verdelan, tu es présidente de l'association de la clinique juridique et étudiante en master de droit des étrangers et tu participes également du coup à l'organisation de cet événement. Quels sont les autres acteurs d'ailleurs de l'organisation de la semaine dédiée aux droits des étrangers?
Alors on a plusieurs partenaires. On a d'abord le CDAD donc, qui nous aide sur l'accès aux droits, etc. et qui est venu en soutien de cette semaine. On a le CADA Montjoie, donc c'est le centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. La CIMAD, le Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme et le RESF.
Ça fait du monde, effectivement.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que la clinique juridique de l'Université du Mans, d'ailleurs, Lucie de Verdelan?
Alors, en fait, la clinique juridique, à la base, on organisait des permanences juridiques, donc en droit privé et en droit des étrangers, à la BU de la fac, ouais. À destination des étudiants. Justement, c'était en collaboration avec le CDAD pour leur permettre d'avoir un meilleur accès aux droits. Et là, l'association, elle organise son premier événement donc, autour du droit des étrangers.
Et comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce projet, personnellement?
C'est une très bonne question. Alors, pour ma part, en tant que doctorante, j'organise plutôt la table ronde.
Okay.
Donc, pour moi, ça a aussi une portée scientifique de pouvoir avoir plusieurs maîtresses de conférences. C'est une table ronde qui est exclusivement féminine, d'ailleurs. Avec une maîtresse de conférence en droit, une maîtresse de conférence en sociologie et une coordinatrice juridique de la plateforme au soutien des migrants et migrantes qui intervient sur le littoral entre Calais, la France et l'Angleterre. Mm-hmm. Donc voilà, une table ronde pluridisciplinaire. Et voilà, donc d'un point de vue scientifique, c'est intéressant de pouvoir avoir cette pluridisciplinarité autour de cette question.
Et Lucie, du coup?
Moi, du coup, je suis à la fois étudiante dans le master droit des étrangers qui participe à l'organisation et de l'association de la clinique juridique qui participe également à l'organisation. Et donc, nous, notre but, c'était de pouvoir sensibiliser les étudiants de la fac à des problématiques qui nous semblent importantes et puis de permettre de faire un peu le lien entre eux, des enseignants, les étudiants, les associations locales.
D'accord.
Et puis de mettre en valeur notre master.
Ça marche. Et alors, juridiquement, qu'est-ce qu'on entend par étranger, en fait?
Pareil, très bonne question. Ouais. Est-ce que tu veux te lancer sur...
Bah ouais. Alors là, dans notre petite semaine dédiée aux droits des étrangers, on a entendu le droit des étrangers au sens large, mais on peut faire une distinction, et je pense que ce sera fait durant la table ronde qui aura lieu le 18 mars. On peut parler des étrangers de droit commun d'abord, ça va être toutes les personnes qui sont de nationalité étrangère sur le territoire français, tout simplement. Donc ça va être toutes les questions des titres de séjour, de l'éloignement éventuellement. Et puis, il y a la question des réfugiés, donc c'est les personnes qui ont obtenu l'asile en France. Donc là, nous, en parlant de droit des étrangers, on a regroupé pour que ce soit plus court et plus simple à comprendre, mais il y a bien des distinctions au sein des étrangers.
Ok. Et alors, quel public visé par ce projet?
On vise un public très large. Initialement, l'objectif de la conférence Femmes en exil, c'était surtout de pouvoir donner des clés aux femmes en exil, justement. Donc on espère pouvoir attirer d'abord ce public-là, ensuite le public associatif, les bénévoles, etc. Également les avocats et finalement les étudiants. On espère qu'ils viendront nombreux à cette table ronde qui est donc à la faculté de droit et de l'étendre aussi aux étudiants en sociologie et autres et publics divers vise tout le monde finalement, la moitié de la population, les femmes en général.
Et alors cette semaine du coup, il s'agit en fait de sensibiliser à des problématiques rencontrées par les étrangers par rapport à la question du droit, des problématiques qui se posent quotidiennement?
Oui, c'est ça. En fait, pour l'instant, on a parlé surtout de la table ronde, mais il y a aussi deux autres événements qui sont organisés. Donc il y a un ciné-débat qui aura lieu au cinéaste autour du film Maître, qui est un documentaire sur le travail d'avocats en droit des étrangers. Et puis ce sera l'occasion d'avoir une discussion après avec deux avocates qui exercent notamment en droit des étrangers au Mans. Et puis il y aura le jeu du parcours du migrant avec la CIMAD qui, pareil, a une thématique de sensibilisation. Et donc entre la table ronde, le ciné-débat et le jeu du parcours du migrant, les objectifs sont un petit peu différents entre chaque événement. La table ronde est peut-être un peu plus spécifique pour des juristes, que le ciné-débat et le jeu du parcours du migrant ont vraiment une vocation à une sensibilisation très large.
C'est vrai qu'on a aussi omis un peu la journée d'études avec la matinée qui est quand même...
le mardi 19.
Qui est quand même très d'actualité sur la question des réfugiés palestiniens, où on aura des intervenants vraiment, vraiment de qualité et on va pouvoir débattre d'un sujet quand même qui est central actuellement. Et l'après-midi qui est non négligeable sur la dématérialisation des procédures pour tout ce qui est acquisition de titres de séjour, etc., qui pose de vrais soucis. Là, un peu plus technique quand même pour des juristes, mais très intéressante aussi globalement. Mais la matinée géopolitique va être super. Ouais.
Effectivement, cette journée d'études qui est organisée le mardi 19... En parallèle et en même temps inscrite dans la semaine que vous organisez, c'est ça? En tout cas, la journée d'études est organisée par Hélène Raspail et Stéphanos Gakis. Donc, comme tu l'as dit, le matin, on parlera des réfugiés palestiniens. Quels sont les enjeux, en fait, dans cette question des réfugiés palestiniens?
Je pense qu'il y a il y a les enjeux de voir quelles sont les différentes protections qui vont naître de là actuellement la reconnaissance d'un conflit armé ouvert quasiment. Quels sont l'avenir des personnes réfugiées palestiniennes qui aujourd'hui sont reconnues plutôt apatrides que réfugiées? Est-ce que leur statut va changer? Est-ce que ça va se pérenniser dans le temps? Je peux pas me prononcer dessus parce que je suis pas experte sur la question. Justement, il va falloir venir pour pouvoir avoir des réponses. Mais en tout cas, je pense que beaucoup de questions pertinentes vont être soulevées. Ça va être très intéressant. Ouais.
Alors, je me permets de revenir juste un peu en arrière sur le lundi 18 mars, la table ronde. Pourquoi aborder spécifiquement le thème des femmes en exil? Comment c'est venu ce sujet-là?
Ce sujet, il est venu parce que on l'a pas étudié, mais on s'est rendu compte que les femmes étrangères étaient victimes particulièrement de violences, et puis qu'aussi elles étaient extrêmement nombreuses en fait parmi les étrangers qui arrivaient en France, qui aujourd'hui résident en France, et que c'est pas forcément un sujet qui est souvent mis à l'honneur. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, les femmes ne représentent pas la moitié des étrangers finalement qui vivent en France. Donc c'est un sujet qui nous a paru extrêmement intéressant, et puis d'aborder de manière à travers les femmes, d'aborder aussi de manière assez générale la situation des étrangers en France.
Ça marche. Ah oui, tiens, j'avais une question aussi sur l'après-midi de la journée d'études du 19. Décidément, je fais des va-et-vient. Là, je ne me suis pas très bien débrouillé sur l'organisation des questions. Donc, le sujet de l'après-midi du mardi 19, c'est sur la dématérialisation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Alors, je dirais qu'il y a eu un tournant depuis le Covid. Pour avoir son titre de séjour, il faut pouvoir prendre un rendez-vous en préfecture. Mmh. Il faut pouvoir donner les documents nécessaires pour prouver son droit de pouvoir rester sur le territoire, etc. Et on a vu une dématérialisation croissante de ces procédures avec des obstacles très concrets, type je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas accès à Internet, je ne peux pas envoyer mes documents. Et au-delà de ça, il y a énormément de questions, voilà, autour de la dématérialisation en droit en général, même pas que pour les étrangers, hein, d'ailleurs. Mmh. On le voit dans tous les domaines du droit public. Par exemple, nos impôts, aujourd'hui, on les paye essentiellement sur Internet. Voilà, Donc, pour les étrangers, c'est encore une autre dimension, avec la barrière de la langue, avec l'impossibilité d'accéder à...
À une personne humaine, en fait, quoi.
À une personne humaine, exactement. Les rendez-vous en préfecture, d'ailleurs, sont difficiles à obtenir et on ne peut plus se rendre comme ça, spontanément, dans une préfecture. Donc, c'est tout ça. Il y a aussi des titres de séjour qui sont maintenant automatisés seulement sur la nef, typiquement. Donc, c'est de pouvoir apporter des clés, notamment aux travailleurs sociaux, pour qu'ils puissent... aussi savoir comment dépasser cette barrière.
Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du film Les Maîtres et de son réalisateur Swen De Pauw, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui font l'objet du ciné-débat du mercredi 20. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un peu
Oui,
alors, si vous avez des éléments.
Le film Maître, donc, c'est un film qui est un documentaire sur deux avocates en droit des étrangers à Strasbourg. Et donc, c'est vraiment une immersion dans leur cabinet d'avocat et de comment ça se passe au quotidien pour gérer des dossiers qui sont parfois extrêmement compliqués, avec des gens qui sont vraiment dans une situation de grande précarité. Et voilà.
Et Swen De Pauw, ce réalisateur, vous le connaissez un peu ou pas?
Pas du tout.
D'accord. Désolé, juste pour savoir. Alors, en quoi consistera le jeu du jeudi 21?
Bah, j'avoue que c'est un peu la surprise en fait. C'est un jeu qui est organisé par la CIMAD. Donc,
ouais. C'est quoi la CIMAD?
C'est une organisation qui vient apporter un soutien juridique aux exilés. C'est une association nationale et donc là c'est le réseau de la Sarthe qui va nous proposer ce jeu, mais c'est un jeu qui est national. Mais on ne sait pas exactement en quoi ça va consister en réalité.
Alors moi j'ai eu la chance d'y jouer l'année dernière. Donc c'était très bien. Donc c'est accessible au grand public. Et ça, c'est quelque chose de vraiment sympa. Donc, on traite de plein de questions différentes en droit des étrangers. On a différents profils très, très divers. Autant pour stéréotyper un peu le réfugié, la personne qui vient faire des études, la personne qui vient rejoindre son conjoint, la personne qui vient au centre pour ça. Enfin, voilà. Donc, on a plein de personnages différents et on incarne ce personnage.
Okay.
Et c'est un peu comme un jeu de loi. Donc, on va suivre différentes étapes qui sont les étapes clés dans un parcours migratoire, qu'on est tous confrontés à ça quand on est étranger. Et selon en fait, notre profil, et c'est là où on se rend compte bien de la discrimination selon du milieu dont on vient, selon notre genre, selon etc. Voilà. Donc on suit les différentes étapes et puis on se rend compte des choses auxquelles on est confronté et comment y remédier et comment on arrive jusqu'à... la régularisation ou l'expulsion.
Donc suivant le personnage qu'on va jouer, le parcours ne va pas être le même, quoi.
Ne sera pas le même. Par contre, il y a toujours des solutions de régularisation derrière.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on pourrait tout simplement spécifier où auront lieu ces différents événements? Parce qu'on a dit quand, mais on n'a pas dit où.
Tout à fait. Alors la table ronde du lundi 18 mars, elle aura lieu à la fac de droit, donc à l'université du Mans. Pour être plus précis, pour ceux qui savent, c'est en amphithéâtre Mercure. La journée d'études, c'est aussi à l'université du Mans. Toujours à la fac de droit. La projection, enfin le ciné-débat du film, il aura lieu au cinéaste. Et le jeu du parcours du migrant, à nouveau, il a lieu à l'Université du Mans, dans les bâtiments de la fac de droit.
Ça marche. Et alors, en plus de ces événements, la semaine sera animée par une exposition itinérante organisée par la Maison des Langues. Vous sauriez nous en dire un peu plus?
Alors, il y aura effectivement une exposition qui aura lieu, qui sera organisée par les Maisons des Langues à la bibliothèque universitaire. Malheureusement, elle ne sera pas itinérante cette année.
Ah.
On espère pouvoir mettre ça en place pour l'année prochaine, mais cette année, ça n'a pas abouti.
D'accord, donc ce sera à la BU, quoi.
Ce sera à la BU.
Ça marche. Ouais. Et alors, est-ce que tous ces événements sont gratuits ?
Alors, la table ronde, oui.
Bah, tout sauf la journée d'études, finalement.
Bah non, parce que le ciné-débat, c'est le prix des cinéastes.
Prix des cinéastes.
Ok.
Voilà.
Projection classique.
Voilà.
Ok, ça marche. Pour terminer, est-ce que vous pouvez simplement nous dire où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos pratiques ?
Eh bien, les infos sont sur le Instagram Clinique Juridique Le Mans.
Ok, ça marche. Et oui, j'invite à aller voir l'illustration qui couvre l'affiche. Elle est vraiment super. C'est de qui d'ailleurs ?
Eh bien, c'est de Chocafa Hamidi, qui est une étudiante au DU Passerelle, donc le diplôme universitaire pour les personnes réfugiées, qui est afghane, et qui nous a fait l'honneur d'illustrer notre affiche avec un dessin magnifique.
Mmh. Super merci illustration.
À ouais, ouais, ouais.
Merci à elle, vraiment.
Incroyable.
Chocofa, merci.
Merci beaucoup, Aimé Hugo et Lucie de Verdelan, pour être venus nous parler de la semaine dédiée aux droits des étrangers. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
On fait une petite pause et on se retrouve juste après pour les chroniques étudiantes. Et tout de suite, on écoute 16, Je suis un étranger.
Restez tous en France, les enfants de l'exil, les charters en portance, sauf les politiques quasi. Les solidaires ici ont des œuvres de signes. L'amour à ton poignet, moi je vole à la tire. Le roi financier, des cynismes au sourire. Nous construisons des murs, tu construis l'avenir. Dans des villes d'enclaves, peuvent dans les métros. Sous le chant des esclaves, sous l'envol de l'oiseau. Je suis un étranger, l'orage est mon pays. Je n'ai toi les camps à Calais, nous les désillusions, toi le béton armé, notre vieille culture, toi petite ouvrière des villes, nos réserves et cessures, toi l'enfer des bidonvilles, nous les collaborants des Babylones en argent, nous les prostituants, toi l'œil des brindants, nous les voleurs de terre, toi fils des tyrannies. Toi boire l'eau des pluies. Je suis un étranger, l'orage est mon pays. Je n'ai pas de monnaie, la route est mon ami. Je suis un étranger, la terre de mon chemin. Un étranger, tous fils de l'incendie. Dis pourquoi douce France, je ne vois qu'ignorance. Des fascismes à outrance, pays de nos enfants. Nous sommes des étrangers, la terre est notre pays. Nous n'avons pas de monnaie.
Bye.
retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et aujourd'hui, on est avec Maxime. Salut Maxime.
Coucou.
Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vous parlais de Dune 2 et d'un film qui a été présent aux Oscars dimanche, qui s'appelle La salle des profs, un film allemand.
Ok, voilà. D'accord.
Donc on va commencer par le plus gros morceau, à savoir Dune 2,
hein, qui a fait beaucoup parler,
qui a fait pas mal d'entrées en France et qui est en train de beaucoup rentabiliser son budget. Donc Dune 2, suite du film écrit et réalisé par Denis Villeneuve, là du coup on va suivre les aventures de Paul Atreides qui, après avoir perdu, avoir vu son père se faire tuer, enfin tous ses proches se faire tuer suite à la trahison des, enfin, suite à l'attaque des Harkonnen, va suivre les Fremen pour mener la rébellion contre l'Empereur et les Harkonnen. Donc, ce qui est vraiment bien avec ce film, c'est que on n'est plus autant sur comme dans le premier, où le premier était vraiment très froid. C'était vraiment très froid, oui. C'était très politique, c'était très lent. C'était un des rouages qu'on a fait au premier film. Et fort heureusement, ces défauts étaient un peu corrigés dans la mesure où là, on n'est plus sur de l'action. Là, on est.
D'accord.
Alors, il n'y en a pas non plus, dans la première heure, il n'y en a pas non plus toutes les 10 minutes, mais on est quand même sur. Il y a plus d'explosions, il y a plus d'action, c'est plus joli en termes d'image. La musique est très belle aussi. Zendaya est beaucoup plus présente que dans le premier aussi. Mmh. Et non, franchement, les personnages sont bien plus développés. C'est un poil plus émouvant parce que ouais. Le premier était, comme je disais, était très froid, donc il y avait vraiment pas d'émotion. Et là, c'est à peu près pareil, mais c'est un petit peu plus. On sent qu'il y a un petit truc en plus. Voilà, il y a une petite touche d'émotion en plus. Et puis même, il y a des personnages. Hein, le personnage interprété par l'acteur d'Elvis, j'ai oublié son nom, mais l'acteur d'Elvis dans le biopic, là, pour ce film-là, il est extraordinaire. Il fait peur.
C'est le Harkonnen là, qui se bat contre le héros à la fin, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, celui qui est dans sa séquence en noir et blanc. Là.
Mmh, d'accord. Ouais, c'est,
d'ailleurs, c'est une très belle séquence, hein, mais la séquence, le personnage, il est... Il est badass, il est assez méchant, ouais.
Donc ça va, les 3 heures passent bien ?
Alors, c'est vrai que la première heure peut être un petit peu compliquée, mais une fois qu'on est rentré dedans, ça passe tout seul.
Okay.
Ça passe tout seul et on est vraiment porté par l'action, on est vraiment porté par l'ambiance, par les personnages, à quel point la posture de certains personnages, comment ils en imposent dans leur... par leur présence et par leur prestance, c'est vraiment.
Est-ce qu'on voit beaucoup de vers de sable ? Parce que moi, j'adore ces trucs.
Alors, fort heureusement, on en voit plus que dans le premier.
D'accord, ok.
On en voit plus et quand on voit le film en 4DX, c'est grandiose.
Ah, tu l'as vu en 4DX ?
Alors, j'ai eu la chance aussi de le voir en 4DX et il y a une séquence qui a plutôt fait parler d'elle et je crois qu'elle est aussi dans la bande-annonce. C'est une scène où il y a des personnages qui sont en train de faire un peu comme du cheval, mais sur les vers géants. Et quand les personnages sautent et qu'ils sont dessus, ils sont sur les vers de sable et que les vers ils sont en train de se taper contre ça, le siège il tremble, c'est incroyable, c'est trop bien.
Waouh. ça a l'air d'être du grand spectacle, effectivement.
Ouais.
Et alors du coup, le deuxième film dont tu voulais parler aujourd'hui.
Alors le deuxième film, c'est La salle des profs, donc c'est un film allemand qui a plutôt fait parler parce qu'il a remporté pas mal de prix à certains festivals et dont là il a été présent dans l'Oscar du meilleur film étranger. Il ne l'a pas eu, mais contre Zone of Interest, qui est très bien aussi. Mais là, c'est un film qui a fait parler parce que ça parle quand même de l'éducation nationale, enfin de l'éducation, de l'école, de comment ça se passe, notamment parce qu'on suit une prof qui vient de débarquer dans le collège et elle est. Elle entend parler que notamment parmi les professeurs, il y aurait des vols. Enfin,
okay.
Il y aurait des vols dans le collège et ils mènent l'enquête. Et du coup, ça va mener à pas mal de situations compliquées, genre le manque de communication entre les professeurs, les méthodes peu orthodoxes qui peuvent déranger certains, les dénonciations d'autres, le racisme de certains. Enfin voilà, c'est, en fait le fait que une situation puisse tout dérégler le problème dans le collège, c'est très très fort. Et surtout, l'actrice principale est très très forte. Je pense notamment à une scène où le personnage principal s'en prend plein la gueule sur ce sujet. Et elle arrive en classe devant ses élèves et on le voit dans la bande-annonce, enfin, en partie, elle dit à ses élèves, bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va se lever et à trois, on va hurler tous en même temps. Et du coup, elle, non seulement ça lui permet d'extérioriser tous ses problèmes, mais en plus ça, ça permet aussi aux autres enfants de se soulager parce que ils vivent aussi pas mal de pression avec les autres personnages, les autres enfants qui vivent des situations compliquées. Et donc, c'est un vrai moment qui est très très fort. L'actrice est à plein dedans. C'est...
Et du coup, au niveau du ton du film, c'est un thriller, c'est ça ? Je vais revoir ça, moi.
Oui, on est vraiment sur une ambiance parce que même si au bout d'un moment, on sait qui vole, je le dirais pas pour des raisons évidentes, mais même si on sait qui vole, il y a toujours quand même les répercussions après. Okay. Les répercussions, et on se dit, oh, ça arrêtera jamais.
Ça marche. Et ben merci beaucoup, Maxime, pour ta chronique sur Dune 2 et La Salle des Profs. On va se quitter en musique avec Sexy Sushi Cheval. Et pendant qu'on écoute ça, n'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Ella Atone, Damarea et En Attendant Anna, soirée Indérama à Jean Carmé le 15 mars en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, c'est Cheval de Sexy Sushi.
Cheval, cheval, tu cours comme un fou, tu cherches à nous servir envers et contre tout. Ta crinière de feu éblouit nos combats. Cheval si courageux, je te nomme roi. Cavale contre l'ennemi, sans défense, sans armure. Tes sabots, ton allure, tout chez toi est pur. Ta fougue résonne dorénavant comme la vie. Cheval, cours, sauve, galope, hennie. Des millions de chevaux ensevelis, les tripes à l'air, les yeux arrachés. Des millions de chevaux ensevelis pendant les guerres, les yeux arrachés. Merci cheval, merci de te faire tuer en notre nom. Tu es le plus beau, je t'aime. Tu es le plus beau. Des chevaux par milliers dans les ravins, dans les fossés.
Merci à tous d'avoir suivi l'Amphi. On se retrouve ce mercredi 13 mars pour un nouvel épisode de ma sonographie. Et ce sera sur la chanson française sous toutes ses facettes, mais toujours avec du texte en français parce que j'aime les chansons à texte. Contrairement à d'habitude, je vous ferai donc découvrir plusieurs artistes en une émission. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.
Étudiante.
Radio Alpa, l'alternative.